Fidèle à sa tradition d'aller de l'avant, l'EPF, l'école d'ingénieurs dont le nom rappelle qu'elle fut l'école polytechnique féminine, la première des grandes écoles en France à former dès 1925 des femmes au métier d'ingénieur, recevait pour sa soirée de rentrée inaugurale Jean-Marc Jancovici. Un discours par ailleurs iconoclaste, ici très bien entendu. Au premier rang, Jean-Michel Nicole, directeur de l'EPF, qui s'enorgueillit toujours de la présence de 40% de femmes au sein de l'établissement.
Comment peut-on faire pour que le futur ne soit pas le contraire de l'avenir ?
Ah, si j'avais la réponse à cette question, je serais un homme heureux. Il n'y a pas de recette magique, sinon il y a longtemps qu'on l'aurait trouvée, donc il y a un peu de tout dans cette histoire. Il y a à mieux comprendre, il y a à avoir envie d'agir, il y a un problème de citoyens, il y a un problème d'élus, il y a un problème de force économique, il y a un problème de signaux qu'on utilise. Un projet de société, ça ne se décrète pas sur un slogan, quoi.
Vous avez eu un invité de marque ?
Invité de marque, c'est vrai. Nous sommes ravis de faire rentrer dans cette école cet esprit qui est finalement très proche de la posture que cette école a prise depuis un peu plus de 2 ans maintenant, puisqu'ils ont une des thématique transversale de l'école dans la formation, c'est le développement durable, c'est la prise en compte dans les nouvelles technologies et dans les sciences de l'ingénieur de ces dimensions qui sont très souvent exclues aujourd'hui de la formation. Puis en même temps une volonté d'ouvrir les jeunes vers des sujets de débat pour les rendre plus intelligents, plus exigeants aussi, et puis aussi plus déterminés dans leur point de vue. Voilà, donc ça correspond parfaitement à notre souci d'ouverture, et en même temps c'est vrai que ça montre notre intérêt pour des domaines très, très, très cosmopolites, que sont ceux qui ont été abordés aujourd'hui par Jean-Marc Jancovici.
Est-ce que vous avez écouté Jean-Marc Jancovici ce soir ?
Absolument, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un qui parle fort, enfin qui se fait entendre et qui parle très vite, donc il faut suivre parce que c'est un personnage, c'est une vraie machine, il faut suivre le fil. Mais je pense que c'était bien pour des élèves ingénieurs, c'était un type de discours auquel on est habitué, donc il a bien pu se faire entendre, je pense, ce soir, par un bon groupe d'élèves.
C'est un discours auquel vous êtes habitué désormais, ça n'a rien de nouveau dans une école d'ingénieurs.
À titre vraiment personnel, c'est pas nouveau pour moi, j'ai eu l'influence de mes parents, j'ai pas mal lu sur le sujet, j'essaie de m'informer. J'ai eu un premier cours dans le cadre d'un échange au Québec qui parlait de l'éthique ingénierie et des grands défis du corps ingénieur dans les années à venir, donc qui me sensibilisait aux différents problèmes de changement du climat et du carbone, tout ça. Par contre, à l'EPF, on entend parler, à mon avis, depuis seulement quelques petites années. Et c'était pour moi la première fois que l'ensemble des options de l'EPF de 5e année étaient mises au courant.
Mais c'est des choses qu'on connaît déjà, en fait. Moi, je suis en option énergétique et environnement et on nous a déjà sensibilisés à ça. Et c'est vrai que la première fois, ça a été un peu dur, mais finalement, il y a quand même des choses à faire. Enfin, même si on ne peut pas l'éviter, on peut quand même essayer de faire des choses, que ça soit moins pire.
Le fait que le monde à UCASPIP, vous avez l'habitude, ça y est, c'est intégré, donc bon.
Sur le coup, ça fait un choc, mais quand on peut rien y changer, quand c'est quelque chose qu'on sait que ça va arriver, mais qu'on a quand même la possibilité de l'arranger, rien n'est perdu, même si on sait que on aura le monde qu'il est maintenant, on ne l'aura sûrement pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Et...
Honnêtement, est-ce que vous allez regretter ce monde ?
Oui, un peu, parce que moi, je trouve que c'est quand même on perd quelque chose. À chaque fois que, que l'homme éteint quelque chose, je trouve que c'est quand même une perte. Mais...
Il va passer à autre chose, mais ce sera peut-être mieux.
Je sais pas. Moi, je trouve que quand même, c'est sans qu'on y touche, c'est bien fait. Je trouve la nature et que je pense que chaque fois qu'on perd quelque chose, que la nature a pas décidé, c'est pas comme ça. Mais chaque fois que c'est pas naturel, c'est quand même un manque, je pense. Et comme c'est tout est lié, on ne sait pas tout ce que ça implique. Et si c'est pas la nature qui le fait, je pense qu'il y aura quand même, ça sera compliqué. Ce sera pas forcément fatal, mais ça sera compliqué d'améliorer.
Le fait d'avoir sa copie à revoir, est-ce que franchement, c'est si catastrophique que ça ?
De quelle copie s'agit-il ?
La société elle-même, telle qu'elle a été bâtie, a des choses qui sont bien, d'autres qui ne le sont pas, parce qu'après tout, c'est pas la planète entière qui vit aussi grassement qu'on ne vit. Est-ce que finalement, c'est pas plus mal d'avoir des choses à revoir ?
Ah bah si, un projet, c'est toujours une modification. Donc le projet, un monde en évolution sans changement à opérer, c'est un monde triste, ou c'est un monde impossible, plus exactement. Donc le fait qu'il y ait des défis à relever, c'est une excellente nouvelle. De temps en temps, du reste, les gens sont ravis de relever des défis. Les astronautes américains, on les a mis dans une boîte de conserve pendant une semaine pour les envoyer à 300 000 km de la Terre. Ils étaient absolument ravis. La question n'est pas de savoir s'il faut relever des défis. La question est de savoir si on arrive à relever les bons.
Les ingénieurs en France, ça a toujours été un fleuron. Et la pensée est quand même plus juste quand on maîtrise les éléments de la pensée, en l'occurrence la technique. Il y a un rôle de l'ingénieur qui peut se redévelopper encore.
Bien sûr. Alors d'abord, c'est vrai que l'ingénieur français est une exception, une particularité hein, dans dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a qu'en France qu'on trouve des écoles d'ingénieurs de ce modèle-là. Dans les autres pays, on a en général des formations universitaires. Cet ingénieur français, c'est aussi un ingénieur généraliste. Les grandes écoles, Polytechnique, Centrale par exemple, forment des ingénieurs généralistes, c'est-à-dire capables d'aborder des sujets très, très divers, avec une connaissance très large des domaines de l'ingénierie. Et puis en même temps, dans ces formations, c'est vrai que la part des humanités joue un rôle de plus en plus important. La proportion des enseignements qui concernent les humanités varie entre 20 et 30% à peu près dans ces écoles, avec des domaines très larges tels que l'épistémologie, l'éthique, le droit, et la gestion. Donc des sujets qui sont des sujets tout à fait... disons représenté pour ce qui concerne l'EPF par son FI, hein, puisque le FI c'est vraiment en même temps le nombre d'or, donc c'est la dimension scientifique de l'ingénieur, et en même temps ça renvoie à philosophie, ça renvoie à des conceptions beaucoup plus larges finalement du métier d'ingénieur qui porte une responsabilité toute particulière dans la mesure où il a la connaissance scientifique, il a vis-à-vis de la société une responsabilité importante puisqu'il peut faire il peut faire le meilleur, il peut faire le pire aussi.
Je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses, justement, qui, avant, il y a 50 ans, avant de développer tous ces problèmes, avant de créer cette espèce de cycle irréversible, on avait des savoirs, des connaissances qui nous permettaient de vivre proche de nous-mêmes, que ce soit en agriculture, même par rapport à l'énergie, et vivre proche de soi et proche de ses proches, des connaissances un peu plus ancestrales, auxquelles il faudrait revenir, et si on les avait gardées, on aurait peut-être un développement plus durable maintenant. On a un peu perdu le contrôle de cette machine.
Le fait d'être ingénieur, ça participe un peu de ça ?
Oui, je pense, parce qu'on a les moyens de changer. On est dans tout ce qui est industrie, production, et je pense que du coup, en étant dans ce domaine-là, on a les moyens de changer un petit peu. Évidemment, on ne pourra pas tout changer, mais on peut mettre notre petite pierre, je pense, à l'édifice.
Vous jouez entre guillemets les Cassandres, comme vous l'avez fait ce soir. Est-ce que vous êtes bien perçu partout ?
Alors, je vais répondre d'abord par une question. Est-ce que le médecin qui vous annonce que vous avez le cancer, il joue les Cassandres ou il est honnête ?
On accepte son diagnostic dans la mesure où on n'est pas condamné.
Le jour où vous allez chez le médecin et où il apprend que vous avez le cancer alors que vous pensiez que vous n'avez rien, vous ne trouvez pas ça agréable du tout. Il n'empêche que la question est de savoir si vous préférez l'apprendre ou ne pas l'apprendre. J'ai la naïveté coupable de penser que le médecin qui dit qu'on a le cancer, il rend un meilleur service à son patient que celui qui dit rien, sauf peut-être éventuellement dans quelques cas de figure où il sait qu'il ne peut plus rien faire et à ce moment il aurait mieux fait de se taire. Alors je ne pense pas qu'on soit arrivé en ce qui concerne la société des hommes au stade où on ne peut plus rien faire, donc je pense qu'il vaut mieux expliquer où est le problème et que c'est la base de toute action positive qu'on pourra avoir derrière.
Qu'est-ce qui, dans les propos de Jean-Marc Jankovici ce soir, vous a le plus, entre guillemets, interpellé ?
Ce qui m'a beaucoup plu d'abord, c'est la clarté de sa pensée, c'est-à-dire qu'il a une construction pertinente, un raisonnement qui est de très grande qualité. Il a des arguments qui sont des arguments qui ont une forte portée. Et c'est vrai que dans ce débat sur le réchauffement climatique, l'effet de serre, toutes ces thématiques-là, on entend beaucoup de discussions, on a beaucoup d'attitudes très, très superficielles. Avec Jean-Marc, on a une approche très scientifique. En même temps, très, très humaniste, très ouverte sur le futur. Il y a cette responsabilité qu'il essaie de faire passer. C'est ce que j'apprécie, si vous voulez, dans sa présentation, justement. C'est en même temps l'association d'une pensée rigoureuse et scientifique, puis en même temps, un regard très, je veux dire, très, très, très intéressé pour le futur et sur la responsabilité effectivement que porte cette génération-là que nous représentons aujourd'hui.
J'aimerais bien travailler à la mise en place de projets éoliens, en fait, plutôt dans les études de pré-projets de parcs éoliens. Et voilà, j'espère que, enfin, en ce moment, c'est pas trop bien vu, mais j'espère que ça va changer un peu. Il y a beaucoup de travail à faire en France au niveau de l'éolien. Parce que justement, on a plus développé le photovoltaïque parce que c'était plus pratique. Et l'éolien, maintenant, il faut qu'il se développe parce que c'est quand même une ressource qui n'est pas vraiment beaucoup exploitée. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais voilà, c'est l'opinion publique qui s'oppose un peu en ce moment. Mais ça commence à bouger maintenant.
Je pense que chacun doit réfléchir personnellement à ce qui peut changer pour lui et autour de lui. Et je pense beaucoup plus local que mondialement. Je pense que si on se met à réfléchir mondialement, on se met vite la tête sous l'eau parce qu'on voit que... Au final, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas le jeu, des influences, des lobbies, des politiques qui n'ont pas envie de conscientiser, ni d'apporter les solutions, ni de changement vraiment.
Un engagement politique, vous avez ?
Non, et je pense que ce n'est pas utile. Je fais partie des gens qui, quand ils envisageaient de se présenter à la présidentielle, ont fait tout ce qu'il pouvait pour dissuader Nicolas Hulot de se présenter. Je pense que tant que le sujet n'est pas devenu un sujet central dans les préoccupations politiques, le risque de marginalisation, si on s'engage en politique pour le porter, est plus important que le risque de ne pas être écouté si on reste dans la société civile. Mais je pense qu'il y a des gens, alors je ne veux pas que ça paraisse grandiloquent ce que je vais dire, il y a des gens qui ont vraiment réussi à changer des choses importantes dans le monde qui nous entoure en restant dans la société civile. Je pense notamment à toutes les œuvres de charité qui ont été portées, par exemple, ou par l'abbé Pierre, ou par, voilà, qui n'a jamais brillé le moindre mandat. Donc je ne pense pas que ce soit utile, et je pense que des gens comme Nicolas Hulot, pour reprendre ce même exemple, peuvent très bien faire des choses très utiles en restant dans la société civile.
Mais moi justement, les offshore, c'est bien. Même si, parce que moi, je comprends pas trop qu'on soit totalement contre. Il faut évidemment, faut pas dire il y a un projet là et c'est tout. Il faut voir avec les gens. Mais je pense qu'il faut que tout le monde fasse des efforts en fait. Si on veut avoir parce que tout le monde est sensibilisé maintenant à l'écologie, il faut qu'on produise moins de CO2, etc. Et je pense qu'avec cette conscience-là, il faut forcément que tout le monde fasse des concessions. Ceux qui font les éoliennes, parce qu'il ne faut pas planter ça n'importe où. Mais il faut aussi que les particuliers s'aperçoivent que c'est aussi pour eux, c'est pour leur énergie aussi à eux. Et il faut bien faire des concessions pour eux.